tirer des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurence Alanic,
Baptiste Antoine,
Maïsa Costache.
Bonjour, bonsoir. C'est un peu le roi soleil de l'électro. Ces concerts géants, spectacles, sons et lumières grandioses ont attiré des centaines de milliers de personnes de Paris à Pékin en passant par Londres, Moscou, le plateau égyptien de Gizeh ou Houston avec les astronautes américains. Il faut dire que ce musicien et compositeur français a vendu plus de 80 millions d'albums. Le nouveau vient d'arriver. Ça fait 8 ans qu'on l'attendait. Jean-Michel Jarre est de retour. 40 ans après Oxygène, son tube mythique, il nous livre un disque choral en 2 volumes, un album de rencontres avec un casting aussi diversifié que prestigieux que ce pionnier d'électro est allé chercher à Paris, New York ou encore Los Angeles. Electronica volume 1, The Time Machine, est sorti chez Columbia et vous m'en direz des nouvelles. Michel Jarre.
Bonjour.
Automatique avec Vince Clarke, un des titres que l'on retrouve sur ce premier volet de l'aventure Electronica. On le disait, à 8 ans sans sortir d'album, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ?
Ça, c'est drôle comme question, toujours ça. Ça me fait penser au réalisateur de Gravity. On lui a demandé, mais vous n'avez pas fait de film depuis 12 ans, qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, j'ai fait Gravity pendant ce temps-là. Et en fait, c'est un peu ça.
8 ans pour faire Electronica ?
Non, j'ai mis près de 5 ans, en fait. Et en fait, vous savez, aujourd'hui, quand je pense que les albums, c'est aussi quand on sent aussi qu'on a envie d'exprimer quelque chose et qu'on a envie de faire quelque chose qui soit qui corresponde aussi à un désir et à une idée. Cette idée-là, c'est une idée que j'avais depuis un moment. J'avais envie de réunir autour de moi des artistes qui font partie de la scène électronique ou directement ou indirectement, qui sont pour moi, qui l'ont été, qui sont toujours et qui le sont pour les plus jeunes, les débutants, des sources d'inspiration. Et dans à une époque où on parle beaucoup d'un mot que je n'aime pas beaucoup, un anglicisme que j'aime pas beaucoup, qui est le featuring, c'est-à-dire qui consiste en fait à faire de la musique, à envoyer sa musique par fichier sur internet et sans souvent rencontrer la personne qui va poser une voix, un synthé ou une guitare, et sans non plus ni se rencontrer, ni se voir, ni se parler. J'avais envie justement de faire un petit peu l'inverse, c'est même complètement l'inverse, c'est d'aller à la rencontre de gens avec qui j'avais envie de travailler et de mélanger nos ADN.
Donc y aller physiquement, hein, s'entendre. Donc c'est-à-dire que vous êtes allé, vous avez pris l'avion, vous êtes
exactement,
allé dans le studio de vos invités alors.
À prendre contact avec eux et puis en fait leur expliquer ce que j'avais envie de faire, venir quand même pour qu'on parte de quelque chose avec une démo, avec un morceau que j'avais déjà composé en fonction du fantasme que j'avais des gens avec qui j'avais envie de travailler. Et j'ai eu l'agréable surprise que tout le monde me dise oui. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire près de 2h30 de musique.
Oui.
Et comme ça tenait pas sur un album, j'ai décidé, un peu comme dans un film en 2 parties, de faire ce projet Electronica en 2 parties. Une partie qui est sortie ces jours-ci et la deuxième partie qui sort en avril 2016.
Donc Jean-Michel Jarre, vous êtes arrivé avec vos maquettes, hein, si j'ai bien compris. Donc imaginez à partir de l'univers de la deuxième personne ou des autres qui participaient avec vous à cette aventure. Donc ça veut dire que vous avez dû mettre vos émotions et vos idées en concurrence, en confrontation, en complémentarité avec ceux des autres.
En complémentarité, oui, mais en opposition, non. En fait,
il n'y a pas de concession dans ce genre de relation.
Ah, pas du tout, justement. Alors, c'était ça qui m'a, moi, beaucoup touché. C'est qu'en fait, je pensais qu'il pourrait y avoir des difficultés. Les difficultés sont arrivées, mais sur un autre plan, qui était plus des difficultés d'agenda et de temps. C'est pour ça que ça a pris pas mal de temps. Mais en réalité, à partir du moment, vous savez, c'est intéressant. La musique électronique se fait dans des home studios d'une manière assez solitaire. Et au fond, on est un petit peu comme dans l'atelier du peintre quand on travaille et on est seul. C'est une activité assez solitaire. Et en fait, c'est pas facile de finalement un jour de décider qu'on va partager ses secrets, ses points faibles, ses tics, ses tocs avec quelqu'un. Et donc j'étais très touché qu'effectivement, au-delà justement d'une rencontre où chacun va travailler dans son coin, qu'on puisse se retrouver à justement mélanger nos approches. Et ça a été une sorte de voyage initiatique pour moi, bien sûr.
Est-ce qu'ils vous ont surpris ?
Bah oui, on est toujours. J'ai envie de dire que c'est à la fois une surprise permanente de travailler avec quelqu'un et de partager le processus créatif. Ça, c'est quelque chose de tout à fait excitant et jubilatoire. Mais il y avait surtout effectivement quelque chose qui était proche, ce que je viens de dire, de la jubilation, c'est-à-dire de sales gosses qui se retrouvent ensemble en se disant tiens, viens dans ma chambre, je vais te montrer mes jouets, on va partager ouais. Ce moment j'ai trouvé surtout des geeks, des nerds à toute génération confondue. Et ce que je savais, parce que c'était un petit peu ça un des thèmes de l'album, c'est qu'il y a une intemporalité dans la musique électronique. La musique électronique n'a rien à voir avec les États-Unis, ça n'a rien à voir avec le jazz, ni le rock, ni le blues, enfin. Elle a à voir aujourd'hui avec les États-Unis, parce qu'il y a de grands acteurs de la musique électronique.
Vous
je parlais historiquement. Voilà. Mais historiquement, oui. C'est quelque chose qui vient d'Europe continentale, qui vient de la musique classique, qui vient de l'Allemagne et de la France, avec Stockhausen, avec Pierre Schaeffer, avec Pierre Henry. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Sofiane Fanel tout à l'heure. Mais on a avec la Russie, avec Theremin, avec The Art of Noise et le Russolo avec le futurisme en Italie. C'est vraiment quelque chose qui vient de la tradition de la musique classique, ces longues plages instrumentales qui n'ont rien à voir avec les formats de pop américaine. Et donc, du coup, il y a cette forme d'intemporalité qu'on retrouve aussi bien dans des gens avec qui j'ai travaillé, comme des gens comme Tangerine Dream ou Fog Buttons, qui est un groupe qu'on connaît moins, mais qui est un groupe que j'adore, un groupe anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute, à mon avis, ces deux morceaux, le morceau que j'ai fait en collaboration avec Tangerine Dream et celui que j'ai fait en collaboration avec Fog Buttons, pour les gens qui connaissent pas ou qui sont pas familiers avec leur musique, c'est très difficile de savoir qu'il y a des gens qui ont fait un morceau qui sont plutôt entre 20 et 30 et d'autres qui sont plutôt au-delà de 60.
Ouais, à l'oreille, on n'arrive pas à distinguer.
Non, je pense qu'il y a cette forme d'intemporalité qui est assez liée à la musique électronique.
Est-ce que ça veut dire que l'électro, Jean-Michel Jarre, c'est une grande famille et une grande famille internationale?
Mais je pense que la musique électronique, c'est d'abord à une famille, elle a un héritage, elle a un futur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la musique électronique au XXIe siècle devient la musique classique, pas parce que c'est un genre, mais parce que c'est une autre manière de concevoir la composition musicale. C'est en fait le fait de faire de la musique non pas en pensant en termes de notes et fondé sur un solfège, mais en termes de son. Et on est des cuisiniers, tous les DJ sont des sortes de sound designers, des manipulateurs de son. Et donc ça, c'est une autre manière de faire de la musique, de la produire et même aujourd'hui avec Internet de la distribuer.
Alors le cuisinier du son, puisque c'est l'expression que vous employez, on va continuer avec cette métaphore. C'est une question de dosage, c'est une question d'épices, c'est une question d'ingrédients. Comment vous fonctionnez?
Bah oui, je pense que l'approche, et moi j'ai appris ça vraiment avec Pierre Schaeffer, qui est notre père ou notre grand-père à tous. C'est lui qui a vraiment été à l'origine de ce qu'on appelle la musique concrète. C'est-à-dire le fait de pouvoir sortir avec un micro à l'extérieur et de considérer que d'enregistrer un bruit, c'est-à-dire le son du vent, de la pluie ou d'un moteur de voiture ou d'un animal, et on peut en faire de la musique. Et donc finalement, la matière sonore est universelle, et de cette matière sonore brute comme un sculpteur, on peut On peut faire de la musique.
Alors vous fonctionnez comment? Par tâtonnement? Pour comment cuisiner? Vous rajoutez un petit peu de sucre, un petit peu de sel par-ci par-là?
Oui,
vous goûtez à chaque fois. C'est comme ça que vous composez?
Il y a un mélange. Il y a comme d'ailleurs pour chaque plat, il y a effectivement une idée directrice. Si on veut, ça dépend ce qu'on veut faire comme plat. Mais donc moi j'ai en tout cas, je pense que tout le monde d'ailleurs commence comme ça. J'ai une idée générale du morceau que j'ai envie de faire, là où j'ai envie d'aller, et ensuite il y a un dialogue entre les instruments sur lesquels je travaille et moi, et c'est comme le dit très justement le peintre Pierre Soulages, c'est ce que je fais qui m'apprend où je vais. Et je pense que c'est très juste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, et notamment dans la musique électronique, quand on est entouré de machines, d'instruments qui sont qui avec lesquels on peut dialoguer, on a cette approche tactile. Vous savez, il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a cette idée reçue, et beaucoup de gens qui nous écoutent doivent le penser sans doute aussi, que la musique électronique pour être froide, robotique et abstraite. J'ai toujours pensé que c'est l'inverse. Enfin, pas
froide et robotique.
Je pense que elle est très organique et très tactile, puisque on est nos propres luthiers, on fabrique nos sons et notre musique. Alors que moi j'ai suivi aussi un enseignement classique. Quand on fait de la musique en écrivant sur du papier avec un crayon, c'est une interface extrêmement abstraite. Il faut pas oublier qu'à l'époque de Mozart ou de Beethoven, il y a des gens qui ont composé de la musique toute leur vie, qu'ils l'ont jamais entendu, parce qu'ils n'ont jamais eu d'éditeurs qui ont imprimé les partitions et qui ont payé, ce qui coûtait cher à l'époque, un orchestre pour que cette musique soit jouée. Donc je trouve que paradoxalement, la musique électronique est beaucoup plus organique que la musique classique telle qu'on l'entend.
We'll be right back.
Close Your Eyes, Jean-Michel Jarre et Air sur RFI. On passait d'oxygène à air, c'était assez logique.
Oui, oui, bah c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un peu d'oxygène dans l'air. Et c'est vrai que évidemment, avec Air, il y avait un lien. Il y a un lien qui est assez évident. Et j'étais vraiment très heureux qu'on puisse travailler ensemble. Et en fait, l'idée est venue assez rapidement pour ce morceau de partir quand on disait d'où partons-nous comme idée. Ouais. L'idée là, ça a été de se dire tiens, si en un seul morceau, dans le même morceau, on visitait au fond 80 ans de lutherie électronique en partant de la première manière qu'on avait de faire de la musique électronique. Moi, quand j'étudiais chez Schaeffer, on faisait des loops rythmiques avec de la bande magnétique, des ciseaux et du scotch. Et donc on est parti de ça. J'ai fait des premiers oscillateurs qui étaient en fait des oscillateurs qui étaient piqués au studio de radio.
Toujours la radio.
Ah bah oui, la radio joue un rôle capital dans l'histoire de la musique électronique. Et donc du coup, passant ensuite sur les premiers synthétiseurs modulaires, puis les premiers échantillonneurs, les premiers sampleurs, les instruments numériques, les plugins et le dernier son du morceau est fait avec un iPad. Alors ça, c'était plutôt pour nous, parce qu'en fait, les gens qui écoutent le morceau, c'était pas pour faire une sorte de record ou d'établir une sorte de prouesse technique. Simplement pour nous, on est parti de ce concept-là pour faire un morceau de musique. Et ça a été extrêmement agréable de travailler avec Air, que j'aime beaucoup. On a, je pense, en commun quelque chose qui est très français, qui est une approche assez impressionniste de la musique électronique par rapport aux Allemands ou aux Anglais.
La French Touch, c'est pas une légende, c'est pas uniquement un concept marketing.
Alors, il faut toujours se méfier de tous les labels qui, moi, je m'en méfie toujours, qui sont des concepts marketing. Mais je pense qu'il y a, sinon, parce que la French Touch recouvre beaucoup de choses entre Air et Laurent Garnier, il y a quand même un univers. Mais il y a, je pense, une chose que nous avons en France, qui est dans notre culture, qui est dans notre ADN, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, la peinture et dans la musique et la musique électronique, c'est cette approche un peu impressionniste des choses. Il y a une grande différence entre Kraftwerk et Tangerine Dream quand je commence moi à faire de la musique électronique et ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment presque l'opposé.
Il y a sur cet album des musiciens de générations très très différentes. On l'a dit, par exemple, il y a Geza Feuchstein qui est plutôt de jeune, on va dire, dans le milieu de l'électronique. Est-ce que ils vous considèrent tous ces gens-là comme un père, un précurseur, voire un modèle, Jean-Michel Jarre?
Bah, ça, c'est à eux de le dire, il faut leur poser la question.
Mais quand vous avez composé avec eux, c'est ce que vous avez ressenti?
C'est sûr que c'est, mais non, vous savez, au bout d'un moment, quand on travaille ensemble et qu'on fait de la musique, on est sur un pied totalement d'égalité. On est vulnérable, on est un peu à poil quand on fait de la musique. On se met en danger, puisqu'on finalement et c'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Donc du coup, non, je pense que effectivement, je pense que c'est un privilège et une chance dans une vie de commencer quelque chose au moment où justement il y a un mouvement qui démarre. Et moi, j'ai 20 ans, 68. Évidemment, c'est tout à fait à l'époque une obsession, je dirais, de la génération, de pouvoir mettre en question et certains euphémismes.
Du passé, faisant table rase.
Et donc, du coup, la musique électronique était même par rapport au rock, qui était déjà un peu l'establishment. C'était une manière de se révolter en même temps, de faire autre chose.
Oui.
Voilà. Et donc, du coup, il y a cette situation où on ouvre la, je me suis rendu compte d'ouvrir la porte sur des territoires vierges. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière nous. Enfin, très peu, en fait, en tout cas. Aujourd'hui, quand un jeune musicien commence, il commence, entre guillemets, vieux, c'est-à-dire avec un héritage de 40 ans, plutôt balèze, quoi, plutôt fort. Donc, c'est autre chose. Et effectivement, forcément, des gens qui viennent derrière vont, en positif ou en négatif, se référer à ce que vous avez fait, ou en bien ou en mal, d'ailleurs.
Voilà, donc se construire par rapport forcément à ceux qui les ont précédés. On va marquer une courte pause, Jean-Michel Jarre, pour le Flash. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va regarder dans le passé, justement. Faut pas oublier que l'album s'appelle Electronica The Time Machine, donc la machine à remonter le temps.
Eh bien, non,
on va remonter
The Time un petit Machine, c'est pas seulement à remonter le temps, c'est une machine à explorer le temps. On peut aller aussi en avant, on est obligé d'aller en arrière.
Eh bien, on va aller dans les deux sens, alors. Avec vous et avec Sofian Fanen, qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission, juste après le Flash, et vous m'en direz des nouvelles.
direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
VMDN avec Jean-Michel Jarre, son nouvel album Electronica est sorti chez Columbia et c'est ce morceau signé Jean-Michel Jarre et Boys Noize Time Machine qui ouvre donc l'album. On pense forcément à G. Wells, hein, évidemment. La science-fiction, c'est une vraie source d'inspiration pour vous, Jean-Michel Jarre?
Ben, je pense que sinon c'est pas nécessairement une source d'inspiration, mais ça a été. La musique électronique dans ses origines est liée à une certaine vision du futur. Quand je commence la musique électronique, c'est le moment de 2000 Odyssée de l'espace, c'est le moment du finalement on a marché, l'homme est allé sur la lune, et on a cette espèce d'appétit du futur et d'espoir du fait qu'après l'an 2000, le système éducatif fonctionnera mieux, les systèmes politiques marcheront mieux, que les voitures pourront voler à la manière de Spirou et du comte de Champignac, etc. Et puis on s'est aperçu qu'après l'an 2000, c'est pas exactement ça. Et que notre vision aujourd'hui du futur s'est rétrécie, s'est considérablement assombrie. Et que finalement, les héros de science-fiction aujourd'hui sont les héros de Marvel des années 40 qu'on recycle en numérique. Mais on a une vision vintage du futur et je pense que c'est vrai qu'il faut qu'on se réapproprie notre futur, il faut qu'on invente notre futur au 21e siècle et la musique électronique peut y procéder, peut en être la bande-son en tout cas.
Bonjour Sofian Fanen.
Bonjour.
Initial SF d'ailleurs, hein, comme quoi, oui. Vous voyez, science-fiction. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes journaliste, créateur avec d'autres anciens du quotidien Libération du magazine en ligne lesjours.fr. Alors il va bientôt être porté sur les fonts baptismaux. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire quelques mots, nous le présenter?
Oui, donc c'est un média exclusivement en ligne et payant sur abonnement qui revendique un journaliste donc de qualité, de fond, et qui veut s'extraire un petit peu de l'actualité un peu imposée, de l'agenda imposé et du sorte de flux un peu poisseux, disons, qu'on nous propose et qu'on subit, mais qui nous nourrit aussi, hein. On est complètement aussi addict à l'info.
Alors si c'est payant, il faut effectivement offrir quelque chose de différent, il faut offrir quelque chose de qualité et qu'on trouve nulle part ailleurs. Qu'est-ce que vous allez offrir aux internautes?
Notre regard, je pense principalement, on veut baser notre journalisme sur ce qu'on appelle des obsessions. Tous les journalistes sont un peu obsédés, hein, sauf que nous, on le revendique vraiment et on en a fait un système éditorial, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des sujets qu'on va revendiquer, qu'on va choisir, qu'on va vraiment sélectionner dans l'actualité, dans l'info, dans le monde, dans la société, dans laquelle on vit.
À partir de quels critères?
Et on va s'y accrocher. À partir des critères extrêmement subjectifs, si ça nous paraît important, intéressant, ça peut être majeur ou futile, on va s'y intéresser le temps qu'on considérera nécessaire. Ça pourra durer 3 mois, ça pourra durer une semaine, voilà, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est essayer d'exprimer, par aussi un système éditorial et une présentation sur notre site que vous découvrirez fin d'année, la complexité de chaque sujet. Rien n'est évident, rien n'est noir ou blanc, tout est toujours gris. Et nous, ce qu'on veut, c'est expliquer ce gris et le faire comprendre, expliquer le passé, expliquer où on va, expliquer pourquoi on en est arrivé là.
Et parce qu'il y a beaucoup de nuances de gris.
Il y a beaucoup de nuances de gris, c'est extrêmement compliqué.
Et pas seulement en littérature. La musique électronique aura sa place sur lesjours.fr, Sofian Fanen?
Vu que j'en suis, elle aura
forcément
sa place. Il y aura de la musique tout court, parce que moi, il n'y a pas que la musique électronique qui m'intéresse. J'ai cheminé, disons, vers la musique électronique, parce que c'est quand même ça le plus intéressant aujourd'hui, je pense. En tout cas, oui, il y en aura, et il y aura de la musique, il y aura d'autres arts concernant la culture. En tout cas, c'est en train de se construire, mais oui, bien sûr, il y aura de la musique électronique. C'est non seulement le présent, mais en plus le futur de la musique tout court.
Alors vous qui êtes un peu un historien de la musique électronique, vous avez fait aussi l'histoire de la musique électronique sur une autre radio il y a pas si longtemps. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Michel Jarre, c'est un pionnier?
Oui, complètement, notamment en France. Mais généralement, mais tous les musiciens des années 70, disons, sont des pionniers. On était dans un moment où la musique électronique, les musiques électroniques, moi j'aime bien mettre le pluriel, parce que déjà même à l'époque il y en avait plusieurs, un moment où les musiques électroniques se sont attaquées et ont touché à un public, un grand public. Et ça, c'est super intéressant. Et Jean-Michel est vraiment un acteur de ça. Avec Oxygène, c'est quand même un disque qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et tout d'un coup, la musique électronique pénètre dans les foyers. C'est pas rien, ça. Alors, il y a eu d'autres acteurs de ça avant. Des couches, pas le générique de la série Doctor Who, 68, c'est complètement électronique. C'est que des bandes magnétiques qui sont manipulées, qui sont inversées,
oui,
qui sont
triturées, etc. Dans la première partie de l'émission.
Exactement. Ouais. Et en fait, il y a toujours eu comme ça. Moi, c'est ce que je voulais raconter dans mes émissions pour France Culture cet été. À chaque moment de la musique électronique qui commence tout début 20e, mais bon, on est vraiment dans de la recherche et tout. Mais en fait, dès les années 30, les années 40, les années 50, il y a des pionniers qui cherchent des choses extrêmement avant-gardistes, abstraites. On a parlé du groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer tout à l'heure. On est dans une abstraction. Mais il y a à côté de ça des gens avec une vision, je dirais, plus pop.
Voilà, justement.
Avant l'heure. Et Jean-Michel en fait partie.
Voilà, c'est ça la question que j'allais vous poser, Jean-Michel Jarre, parce que le GRM, votre maître Pierre Schaeffer, que vous avez cité à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, c'était quand même quelque chose de très fondamental, de très vraiment très très fouillé au niveau de la recherche musicale. Et vous, instantanément, vous en avez eu marre, vous vous êtes dit, je veux m'adresser directement au public, voire et même au très grand public.
Oui, c'est même Schaeffer qui me l'a conseillé à un moment donné, dans la mesure où moi je viens j'ai eu une éducation classique, mais j'ai joué pendant pas mal de groupes de rock. Et ce qui me gênait, au bout d'un moment, je suis resté moi près de 3 ans au groupe de recherche, c'est qu'en fait des choses qu'on avait l'impression de découvrir de manière assez intellectuelle, avec une approche assez cérébrale intellectuelle, il y avait des gens qui le faisaient aussi de manière empirique dans le rock, dans le pop, comme Soft Machine, Pink Floyd ou autres, qui faisaient des travaux sur des textures comme ça. Et j'avais envie, moi, depuis le départ, même avant de rentrer au GRM, dans le groupe que j'avais quand j'avais à peu près 14 ans, j'enregistrais des solos de guitare sur des bandes magnétiques que je passais à l'envers, etc. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire, et donc j'avais envie de créer ce pont entre la musique expérimentale et la pop.
Ce qu'on disait. Et ne pas abandonner la mélodie, donc. Par exemple.
Moi, j'ai toujours considéré que la mélodie est une partie extrêmement importante c'est la partie, je dirais, fondamentale avec le rythme, mais c'est la partie fondamentale de la musique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tous les gens avec qui j'ai travaillé, finalement, on a ça en commun, l'importance de la mélodie, que ce soit Phoebe Buttons dont on parlait tout à l'heure, même Geza Feldstein, ou des gens, et évidemment des gens comme Moby, R, ça va de soi.
Oui, on parlait de musique populaire à l'instant. Ce qu'on sait moins, Jean-Michel Jarre, c'est que vous avez aussi écrit des paroles de chansons extrêmement populaires, et là on quitte totalement l'univers de la musique électronique. Par exemple, Les mots bleus de Christophe, c'est vous qui avez écrit les paroles. La musique d'Où sont les femmes de Patrick Juvet aussi, toute cette
les textes aussi.
Oui.
Non, mais en fait, pour moi, ça peut paraître étonnant, mais il y a une logique, parce que on a commencé cette émission en parlant de la relation avec la cuisine. Pour moi, le son, c'est aussi bien le son qui est le son des mots, qui sont le son des mots, que le son de la musique. Et avec Christophe, on a travaillé ensemble, on était un collectif là, et il fallait, par rapport, moi j'étais assez obsédé par l'idée de ces albums concept qui venaient d'Angleterre à cette époque-là, ouais. Et qui soient pas seulement une suite de chansons, mais un album, des albums qui retracent une forme d'univers, un univers, et donc les mots devaient aller avec ça, et donc il devait y avoir une recherche sonore dans les mots. Et moi, à chaque fois que j'ai écrit des mots pour des paroles, c'était surtout ce que je recherchais, c'était surtout l'importance phonétique du mot, le sens évidemment étant important, mais les deux sont importants, et c'est souvent ce qu'on a du mal avec la langue française. C'est une langue qui est compliquée pour la chanson, on le sait, mais c'est ça qui m'a intéressé, donc c'est pas du tout contradictoire. We'll be right back.
quelques-uns des plus gros succès de Jean-Michel Jarre. On a entre autres reconnu des extraits d'Oxygène, Equinox ou encore Calypso. Comment est-ce que vous expliquez, Sofiane Fahen, que ça ait marché à ce point-là? Parce que dans les années 70, c'est pas faire injure à Jean-Michel Jarre que de dire qu'il n'y avait pas forcément grand monde qui aurait misé un copec sur cette musique-là.
Mais c'est pour ça que ça a marché.
Parce qu'il a surpris, parce qu'il a pris tout le monde à contre-pied.
Ouais, bien sûr, ça a surgi. Et après, il y avait aussi, je pense que dès l'après-guerre, les années 50, 60, et encore, et 70, bien sûr, sont des années de fantasmes pour, de fantasmes technologiques, de fantasmes du futur. C'est quand même des années où on s'équipe, où on envoie on s'équipe en machine à laver, en télévision, en tout. On envoie des hommes sur la Lune, on construit les autoroutes, les voitures vont vite, etc., etc. Et finalement, il y a une envie de cette musique-là. Donc, quand elle surgit, elle est extrêmement naturelle. Quand Kraftwerk surgit, quand Jean-Michel Jarre surgit, comme d'autres gens arrivent comme ça, en fait, ils proposent une autre temporalité qui s'est déjà installée dans la société, dans le subconscient, sauf qu'elle elle est pas encore exprimée. Et tout ça se fait assez naturellement. Et faut pas oublier aussi qu'on est dans un moment où le rock s'étend aussi. On est dans le moment du rock progressif. On est dans le moment où Tangerine Dream, Pink Floyd, de tous les Allemands, etc. En fait, ils glissent petit à petit d'une musique à guitare à une musique où il y a toujours des guitares, mais où les guitares deviennent vraiment un son qui est manipulé, qui s'étend, où il n'y a plus vraiment de cœur de morceaux, il n'y a plus de refrain, etc. Donc, qu'on transforme ces guitares en synthétiseurs, c'était le pas d'après.
C'est intéressant, je rebondis une seconde là-dessus, sur ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, quand on a travaillé avec Tangerine Dream, moi je pensais qu'on avait commencé en même temps. Il me dit, mais non, toi t'as commencé avant nous, parce que nous au départ on est un groupe de rock. On est venu à l'électronique un peu plus tard. Et il a tout à fait raison. C'est qu'en fait, il y a eu un glissement aussi de pas mal de groupes de rock progressif vers l'électronique, en fait.
Est-ce qu'on peut dire, Jean-Michel Jarre, que c'est la technologie, l'évolution de la technologie qui dicte l'évolution des styles de musique?
Ah oui, absolument. Enfin, pas dans
vous êtes tributaire
de la musique. Non, on n'est pas tributaire
de la technologie.
On n'est pas tributaire, mais c'est parce que le piano a été inventé que Chopin a fait ce qu'il a fait. C'est parce que aujourd'hui c'est parce que les 78 tours existaient que le format du single ou ce qu'on jouait dans les jukebox a formaté finalement la pop américaine. C'est aujourd'hui, on peut le voir aussi avec certains plugins, des logiciels de musique. Il y a un logiciel, par exemple, que Sophie doit connaître, qui s'appelle Massive, qui a été développé par une société allemande qui s'appelle Native Instruments, qui a donné naissance à un genre qui s'appelle le dubstep. Ça marche dans ce sens-là. Et évidemment, nous, les créateurs ou les musiciens, la technologie, après, on la détourne de cette espèce de va-et-vient avec la technologie. En même temps, on en dépend et en même temps, on la détourne.
Puisqu'on parle des instruments et de technologie, Sofia Fahen, est-ce qu'il existe des luthiers de musique électronique? On peut dire ça comme ça?
Oui, dans un certain sens. Je pense que déjà les premiers
synthétiseurs de marque, évidemment.
Les premiers synthétiseurs et même les synthétiseurs complètement numériques après sont vraiment des machines au début faites vraiment à la main et enfin c'est quand même extrêmement compliqué les effets, comment on arrive à proposer ces sons-là. Ensuite même des grandes marques japonaises qui vont nourrir beaucoup les musiques électroniques, les boîtes à rythme, etc. Marques vraiment l'époque, et j'allais dire, plus en proposant un son qui n'est pas naturel, plus qu'en allant chercher. C'est ça qui est intéressant aussi dans la musique électronique, c'est que ça a commencé à devenir vraiment différent et intéressant et intrigant et mystérieux quand des musiciens se sont saisis de machines qui étaient un peu ratées. C'est-à-dire qu'elles étaient faites pour sonner comme une guitare ou comme une batterie. Et en fait, elles sonnaient pas du tout comme une batterie, pas du tout comme une guitare, parce qu'elles étaient un petit peu pas chères, etc. Un petit peu cheap.
Confirmez, Jean-Michel Jarre.
Voilà. Et moi, j'adore les échecs commerciaux dans les instruments électroniques, parce que justement, ça qui est intéressant. C'est encore une manière, je dirais, détourner la technologie.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Allez, on va partir en Argentine où se déroule actuellement le Festival International de Cinéma de Mar del Plata, grande station balnéaire de la côte atlantique. Le palmarès en sera connu samedi prochain, le 7 novembre. C'est le plus important d'Amérique latine. Et pour cette 30e édition, le réalisateur français Arnaud Desplechin était à l'honneur. Notre correspondant en Argentine, Jean-Louis Buchet, l'a rencontré pour nous.
Je suis désolé. désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers.
Quel était le souci avec mon passeport?
Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus.
Alors, qui es-tu?
Je ne sais plus.
Public enthousiaste, critique élogieuse, le dernier film d'Arnaud Desplechin, Trois souvenirs de ma jeunesse, présenté en ouverture du festival de Mar del Plata, a fait l'unanimité en Argentine. Présent dans la salle, le réalisateur français était ravi.
Ah, c'était un accueil très très chaleureux, très très frappant. J'étais très ému d'être là, c'est ma première fois en Argentine. Et la salle était bondée, je ne m'attendais pas à autant de monde dans la salle. Les gens restaient, les gens venaient me parler. D'autres, des réalisateurs dont j'ignorais tout, qui venaient me saluer après. Et comme on faisait l'ouverture, il y avait la soirée des Inrecuptibles, et les spectateurs venaient vers moi et me parlaient. C'était extrêmement overwhelming, c'est le mot anglais qui me vient à l'esprit. J'ai regardé la programmation qui est très diverse. Il y a un ancrage dans le cinéma argentin qui me rendait évidemment très curieux, mais je ne pouvais pas rester pour le festival. Il y a une sélection internationale qui est assez large. J'ai vu le jury aussi qui est tout à fait impressionnant. Non, c'est vraiment un festival de classe 1. Donc de faire l'ouverture d'un tel festival, oui, c'était un honneur très certainement.
Durant son bref séjour, Desplechin est allé de surprise en surprise.
Et ça faisait très longtemps que je désirais venir en Argentine parce que plusieurs de mes films ont été distribués ici. J'étais frappé en parlant avec les journalistes en entretien de la connaissance qu'ils avaient de mon cinéma. Ils avaient tout vu. J'avais plusieurs fois dû décliner les invitations en Argentine parce que mon travail ne me le permettait pas. Enfin là, j'étais vraiment très touché par ça.
Mais les journalistes ne l'ont pas interviewé que sur ses films.
Et j'étais surpris parce que moi, vous voyez, j'ai pour habitude de séparer complètement mon activité citoyenne et mon activité d'artiste, c'est pas les mêmes. Mais pourtant, les journalistes étaient très curieux et très informés de la situation française. Alors, les deux choses qui revenaient, ils disaient, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de néolibéralisme? Alors, comment ça se passe qu'il n'y a pas d'alternative au libéralisme? Parce que s'il n'y a pas d'alternative, à quoi ça sert que vous votiez? J'étais stupéfait par la pertinence de la question et la question sur les migrants, sur cette question des migrants à Calais, principalement. Mais ils étaient tout à fait informés qu'il y a ce changement en Europe qui est tout à fait important. Est-ce que l'Europe va se montrer à la hauteur de la tâche et va réussir à trouver quelque chose, à trouver une ouverture, à trouver un accueil? J'étais frappé par cet engagement politique, oui.
S'il avoue ne pas être spécialiste du cinéma local, Desplechin a savouré Les Sauvages et Dans ses yeux, deux productions qui ont connu un grand succès en France. Il a également vu d'autres films argentins dans des festivals. C'est une cinématographie qu'il apprécie.
J'étais très frappé par la diversité des films. Et c'est ce qui me fait intuitivement la rapprocher d'une situation du cinéma français, où il n'y a pas aujourd'hui une école française. Il y a une pluralité d'écoles françaises. En Argentine, le cinéma est un fait national. Et c'est quand une nation se met à en croire en elle-même qu'elle a besoin du cinéma pour se raconter.
En 48 heures, Arnaud Desplechin a été conquis par l'Argentine. Il part avec un regret et un engagement.
Il y a une chose qui m'a manqué, et c'était l'honneur qui m'était fait, c'était de faire l'ouverture, c'est les discussions avec la salle. Moi, ce que j'ai envie, c'est de revenir ici lors de mon prochain film, pour la distribution, puisque mes films sont distribués ici, de revenir, de rester un peu plus longtemps pour pouvoir avoir les questions-réponses avec la salle. Parce que ça, c'est des moments où vous apprenez beaucoup sur vous-même, et vous apprenez beaucoup sur un pays. Là, c'était une visite express, mais enfin, je suis venu pour revenir, quoi.
Rendez-vous est pris, sans doute pour 2016.
Reportage de Jean-Louis Buchet à Buenos Aires. Le cinéma, ça vous intéresse toujours, Jean-Michel Jarre? Pas de musique de film, par exemple?
Plus que jamais. Moi, le cinéma, dans ma vie, c'est ma source d'inspiration principale. Quand on me demande quelquefois, quand j'ai commencé, quelles étaient mes sources d'inspiration, bien sûr, il y avait le rock, mais il y avait surtout le cinéma. Il y a surtout le cinéma. Et le rapport de cinéma et de la musique électronique, comme on le disait avec Sofian à l'instant hors micro, il faudrait faire une autre émission pour en parler, parce que il y a beaucoup beaucoup de choses à dire.
Vous êtes aussi, Jean-Michel Jarre, le président de la CISAC. La CISAC, c'est la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs. Elle regroupe 4 millions de créateurs sur les 5 continents. Cette année, le montant des droits d'auteur est reparti à la hausse, hein, plus 2,8% sur un an. Ça veut dire que on touche le bout, que la crise commence à être derrière vous?
Oui, enfin, si vous voulez, le problème de la propriété intellectuelle, c'est pas seulement un problème financier. Il faut bien qu'on comprenne, c'est beaucoup plus important que ça. Quand il y a des sociétés aujourd'hui, la musique est partout, elle n'a jamais généré autant d'argent, et les auteurs, paradoxalement, même si on voit que des chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, il y a un décalage énorme entre les gens qui touchent l'argent qui est émis par le qui vient de la musique, et puis les auteurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce que je dis souvent, il faut jamais oublier que dans un smartphone, la partie smart, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde, les gens des médias, les gens qui créons du contenu culturel. Et le contenu culturel, c'est pas comme des pots de yaourt, il faut l'approcher d'une manière différente. Donc il faut qu'on crée un nouveau modèle économique pour le 21e siècle qui soit adapté à nous tous. Sinon, les enfants, nos enfants et nos petits-enfants, passeront à côté de leurs rêves, seront obligés d'avoir un job à côté. C'est déjà le cas pour des jeunes photographes, pour des jeunes gens, des jeunes journalistes, des jeunes musiciens, des jeunes cinéastes. Et on pourrait en parler beaucoup plus longtemps si vous me laissiez un peu plus de temps. Malheureusement, l'émission reste terminée.
Oui, non, mais
et Sophie, on doit parler.
Sophie Orphelin, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous qui regardez ce marché de la musique en général, mais aussi le marché de la création d'une façon encore plus globale, on est là au début d'un nouveau système économique mondial du point de vue de la propriété intellectuelle?
Du point de vue économique, disons, globalement, on est en train de vivre la fin du grand chamboulement des années 2000, avec l'arrivée vraiment massive des échanges dématérialisés, on va dire ça comme ça, qu'ils soient légaux ou pas légaux. Et voilà, le streaming s'installe petit à petit auprès du grand public. Chaque métier de cette vaste et complexe filière a appris à utiliser tout ça. Il y a des nouveaux métiers qui se sont créés. Il y en a qui profitent plus que d'autres, il y en a qui ont mieux appris que d'autres, ou il y en a qui savent depuis un peu toujours faire fuiter de l'argent là où ça devrait pas fuiter. Et donc voilà, tout ça est vraiment en pleine recomposition, et la musique en a plutôt bénéficié, je trouve. En tout cas, il y a eu aucun problème de création, on est vraiment dans une décennie, je trouve, enfin là qui commence, là on est en 2015 en termes musical, on est dans un moment passionnant, fascinant, et vraiment c'est
pas le président de la CISAC qui dira le contraire.
Non, simplement, il faut quand même se dire que il y a une chose à rééquilibrer. Quand les grands acteurs d'Internet touchent des milliards sur le contenu culturel que nous faisons, et que des auteurs on reçoivent le prix d'une pizza à la fin de l'année, il y a quand même un décalage, et on est des actionnaires virtuels de ces sociétés. Donc il faudra à un moment donné, pour le 21e siècle, s'asseoir autour d'une table et redéfinir un modèle économique qui soit décent pour chacun de nous.
Merci beaucoup Jean-Michel Jarre et Sophie Orphelin d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Rendez-vous est pris donc pour lesjours.fr. Vous avez une date précise, Sophie?
Non, on préfère pas donner de date parce que tout ça c'est compliqué, mais vraiment dans les semaines, les mois à venir, au moins 2-3 mois maximum.
On suivra donc ça de très près. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre. L'album Electronica The Time Machine volume 1 est sorti chez Columbia. Le volume 2 l'année prochaine, là aussi vous avez
avril 2016.
Voilà, on va se quitter avec quelques notes. Travelator, Jean-Michel Jarre et Pete Townsend. Demain c'est Gervain Le Ridon et Amina Zoubir qui seront avec nous pour l'exposition Lumière d'Afrique au Théâtre de Chaillot. Dans un instant, l'info sur RFI, vous m'en direz des nouvelles.